Amateur de foot, amateur de soccer, êtes-vous prêt pour une grosse compétition internationale qui vient toujours rallier un maximum d'amateurs ou un grand nombre d'amateurs dans tous les pays du monde? Parce qu'évidemment, il y a des gens de partout qui s'installent partout. Alors, ça rejoint les communautés qui sont liées à différents pays qui s'installent ici au Québec. Alors, l'Euro 2021 qui se met en branle officiellement avec les premiers matchs qui seront disputés demain. En deux temps, on va en discuter, l'aspect business dans quelques instants avec Ray Lalonde. Mais d'abord, allons en Allemagne, l'un des pays qui accueillera des matchs de l'Euro 2021, avec notre collègue, ma collègue Olivia Lévy, qui est là-bas. Bonsoir, Olivia.
Oui, bonsoir.
Merci de veiller si tard avec nous. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de fébrilité en Europe, dans les pays qui accueilleront des matchs à partir de demain?
Oui, bien évidemment, c'est un événement extrêmement attendu, surtout qu'il a été reporté d'une année. Hein, il devait avoir lieu l'an dernier. Et pour cause de pandémie, donc il a été retardé à cette année. Donc, c'est vous dire comment on a hâte de voir cet euro qui célèbre, ben, qui devait célébrer l'an dernier ses 60 ans. Et c'est pour ça que cet euro n'a pas lieu, comme d'habitude, dans un seul pays, mais vraiment, la compétition va se dérouler dans 11 villes différentes à travers l'Europe. Donc, c'est une grande première. Alors, j'imagine, Mario, que déjà, avant la pandémie, c'était un casse-tête que d'organiser dans 11 villes différentes européennes l'euro. Mais là, déjà, imagine l'organisation en ces temps de COVID-19. C'est un énorme casse-tête. Donc, à l'euphorie, s'ajoute quand même un casse-tête parce que déjà, deux villes, Bilbao et Dublin, n'ont pas voulu prendre le risque d'organiser des matchs parce que l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a fait pression pour qu'il y ait du public. Donc, il va y avoir du public dans les stades. Et donc, chaque ville et chaque stade a des règlements différents. Par exemple, ici, donc en Allemagne, à Munich, Munich va accueillir quelques matchs. À peu près 14 000 personnes auront droit à y assister. C'est à peu près 20 % de la capacité du stade. Et c'est extrêmement strict. Par exemple, chaque personne devra présenter un test PCR ou un test antigénique de moins de 72 heures qui est exigé avant l'entrée du stade. Donc, c'est vraiment extrêmement strict à cause de la pandémie. Toutes les autres villes ont aussi des règlements pas tout à fait aussi stricts. Là, c'est vraiment à chaque ville ces règlements. Donc, Amsterdam va aussi accueillir des matchs. Bucarest, Copenhague, Glasgow, Londres et Budapest qui, apparemment, eux, seront presque à 100 % de capacité du stade.
Et est-ce qu'il y a, à travers tout ça, à travers des craintes de certaines villes qui les ont exprimées au point de ne pas recevoir de match, de ne pas accueillir de match, mais pour le reste, est-ce qu'il y a quand même une espèce de fébrilité qui s'installe autour du début de la compétition qui a été reportée à cette année? Parce que, l'Euro, il y a la Coupe du monde, mais l'Euro, c'est majeur.
Oui. Oui, c'est sûr. On est inquiet. On est inquiet qu'il y ait des cas de COVID. D'ailleurs, il y en a déjà. Il y a des joueurs de l'équipe d'Espagne qui ont déjà été mis en quarantaine là il y a quelques jours puisqu'ils ont été positifs à la COVID-19. Donc oui, c'est une vraie inquiétude. Les équipes doivent évidemment vivre avec. Mais vraiment, je pense que là, il y a quand même un enthousiasme qui a vraiment gagné l'Europe et aussi parce qu'il y aura du public. Donc on a vu il y a eu des matchs amicaux ces derniers jours pour que les joueurs, j'allais dire, se mettent en jambes puisqu'ils ne sont pas habitués à jouer en équipe nationale. Et donc, c'était le retour du public dans les stades et on a vu à quel point ça faisait du bien aux joueurs, ça faisait du bien à tout le monde que d'avoir du bruit, d'avoir des applaudissements.
Ben oui. On commence à y goûter tranquillement avec les Canadiens là, qui accueillent 2500 personnes. Je ne sais pas si tu regardes les matchs en différé ou avec le décalage, Olivia. Est-ce que tu es fan de foot? Est-ce que tu es fan de l'équipe française? Le président Macron, en tout cas, semble être impliqué émotivement, en tout cas un peu plus que Mme Merkel en Allemagne. Hein?
Ben alors, là, le président français Emmanuel Macron est allé rencontrer les joueurs aujourd'hui. Et là, il leur a presque dit, ben là, ramenez-moi la coupe le 11 juillet. Donc, attention, même si les Bleus sont quand même favoris, il faut le dire, parce qu'ils ont une attaque de rêve. Alors, Mbappé, Griezmann, Benzema, donc tous les entraîneurs avouent qu'ils rêvent de ce trio qui est juste incroyable. Donc, on va quand même falloir démontrer leur savoir-faire en début de compétition, puisqu'il y a un match très, très attendu qui est France-Allemagne le 15 juin. Donc, on attend tous avec impatience donc ce match-là. Parce que vraiment, ça promet énormément. Il y a le Portugal également, qui est le champion en titre d'Europe.
Oui, oui.
Et on attend également son joueur, Cristiano Ronaldo, qui est à son 5e championnat d'Europe à 36 ans. Donc aussi une équipe qui fait partie des favoris. Et j'allais dire, tu vois, quand tu sens l'euphorie et la fébrilité, bon, et le marketing aussi, ça, tu en parleras avec Ray Lalonde tout à l'heure, mais par exemple, tu rentres dans un supermarché, que ce soit en Allemagne ou en France, où j'étais la semaine dernière, et c'est le délire. C'est-à-dire que, par exemple, en France, il y a marqué « Allez les Bleus partout ». Sur les canettes de Coke, il y a la tête de Mbappé, de Griezmann, sur les canettes de Coke. Et en Allemagne, sur les canettes de Coke, tu as la tête de Müller, des joueurs allemands sur les canettes, sur les chips aussi, sur les bonbons, sur les biscuits. Donc, tu ne peux pas échapper. Tu as même des assiettes ici en Allemagne en forme de ballon de soccer, les drapeaux allemands partout pour encourager l'équipe. Donc, on n'y échappe pas. C'est absolument partout. Dès que tu rentres dans un supermarché, dans une boutique, l'euro, c'est vraiment un énorme événement. Qui va être regardé par des millions de téléspectateurs et qui est extrêmement attendu, surtout voilà, en ces temps de COVID, on se réjouit là,
ben
d'avoir...
Oui, ben oui, ben oui. C'est une fièvre hein, que dans chacun des pays impliqués, puis là en plus, c'est présenté dans plusieurs villes de différents pays d'Europe, c'est rassembleur. On le vit un petit peu avec le Canadien qui avance en troisième ronde, alors on peut s'imaginer l'effet, toute comparaison étant boiteuse. Mais Olivia, un gros merci. Je sais que tu vas rester là encore quelques temps, alors on aura peut-être l'occasion de se reparler, ma chère, sinon de se revoir à Montréal bientôt.
Oui, je rentre bientôt. Oui, j'espère rediscuter de foot avec vous, même si je suis aussi là, le Canadien, puisque pour une fois que ça sent la coupe à Montréal, là, c'est...
Ron l'a confirmé que ça sentait. Merci beaucoup, Olivia.
Merci.
Au plaisir. Enchaînons toujours au sujet de l'Euro 2021, tel qu'on l'a dit tout à l'heure. L'aspect business, c'est immense comme événement. Ça avait été reporté d'un an. Ray Lalonde est avec nous. Bonsoir, Ray.
Salut, Mario.
Alors, l'événement de l'Euro 2021, c'est quand même... où est-ce que tu classes ça dans les événements d'envergure mondiale dans le monde du sport, avec le foot, qui est un sport vraiment global, là?
Ben, c'est certainement dans le top 5, Mario. Deuxième en termes de foot mondial après la Coupe du monde. C'est qui inclut 32 pays. L'euro, c'est 24 pays. C'est que la force mondiale du soccer, football, se joue en Europe. À part l'Argentine, le Brésil, il y a quelques pays africains qui sont très compétitifs, mais en Asie, un peu moins. Honnêtement, les géants du soccer mondial, les grandes ligues commerciales, la Liga en Espagne, la Serie A en Italie, la Bundesliga, la Ligue 1, puis la Premier League, bien entendu. Ben, c'est tout en Europe. C'est là qu'ils se brassent le plus d'argent. C'est là que les grands joueurs du monde entier se retrouvent, Mario, parce que la distinction principale entre le soccer mondial et, par exemple, une ligue comme la NBA, qui joue à un sport mondial, le basketball, c'est que dans la NBA, tous les meilleurs de tous les pays se retrouvent dans un seul endroit. Au soccer, t'as des Messi qui jouent en Espagne, t'as des Ronaldo qui jouent en Italie, tu comprends-tu? T'as Mbappé qui joue en France pour le PSG. Alors, ils sont distribués, répartis un peu partout, ce qui crée une économie de foot mondial qui est gigantesque. Alors, sur le rang mondial, je classerais ça certainement parmi le top 5, là, incluant la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, le Super Bowl, la finale de la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques d'hiver, la finale NBA qui attire beaucoup parce que c'est quand même dans 215 pays télédiffusés, mais l'euro, c'est quelque chose de gigantesque. Puis j'ai eu l'occasion d'être en France en 98 pour avoir même vu les matchs de la Coupe du monde au Stade de France et partout lorsque la France a gagné avec Zidane et Thierry Henry. Et aussi en France, en 2016, j'étais en déplacement sur place lorsqu'ils ont accueilli l'Euro. Mario, c'est vrai ce qu'Olivier a dit, là, c'est la folie, c'est la frénésie. C'est comme si on était aujourd'hui en finale de la Coupe Stanley pour les Canadiens, lors du 7e match, mais à tous les soirs pendant un mois. C'est de la folie comme ça.
C'est très, très intense. Et la dimension différente du fait que plusieurs villes de différents pays accueillent des matchs cette année, alors qu'on s'est ajusté en raison de la COVID, qu'est-ce que ça donne comme plateau? Est-ce que tu t'attends à une réussite? Est-ce que c'est bien parti? Ça a été bien préparé, malgré tous les bouleversements?
Oui, c'est une excellente question, Mario. Tu sais, la planification, pour le préciser, là, de distribuer ça à travers l'Europe, ça date de quelques années parce qu'ils voulaient faire un événement plutôt style anniversaire. Mais ça devient plus compliqué, ce sujet-là, à cause de la pandémie. Et tu as déjà des villes qui ont été permutées ou remplacées récemment, là, même au mois d'avril, à cause de la situation de la pandémie dans certains pays. C'est compliqué parce que, normalement, l'euro, dans un modèle habituel, c'est dans un pays, puis tu as 7-8 villes qui accueillent dans les stades là, les plus populaires de leur ligue respective. Puis là, les voyageurs, les fans qui atterrissent dans un pays, que ce soit des Anglais d'Angleterre qui arrivent en Allemagne, peu importe, bien, après ça, ils s'installent pendant un mois, puis ils voyagent en train ou en voiture ou en autobus, en autocar, à travers le pays pour suivre les péripéties de leur équipe. Mais là, c'est à travers l'Europe, de Budapest à Munich, à la finale à Wembley à Londres, à Rome demain, avec le match Turquie contre l'Italie. Mario, alors là, c'est plus complexe parce que tu as besoin de pouvoir accéder à ces pays-là comme fan. Tu as besoin de t'adapter aux mesures, aux protocoles de santé publique dans chacun des pays, pas pareil d'une place à l'autre. En plus, les stades accueillent à peu près, Mario, en moyenne, j'ai calculé à peu près 22 à 25 de capacité. Peu importe le stade, je pense que le seul qui est à 100%, ça va être à Budapest. Alors tu vois que ça va être compliqué pour un fan qui est fanatique de soccer mondial, puis on le sait, il y en a énormément, bien, de suivre leur équipe, qui est une chose habituelle, bien, ils ne pourront pas le faire cette année aussi librement, parce qu'il y a trop de complexité autour de ça. Puis ça va rendre la chose et la tâche logistique difficile pour les organisateurs.
Qu'est-ce qui te séduit, qui t'interpelle le plus dans l'aspect business d'un événement comme l'Euro, tant pour les commanditaires que pour le potentiel d'exposition, de visibilité des principales vedettes du sport, que pour le sport comme tel? Ray, c'est une question bien large, là, mais
ouais.
Je te laisse nous guider.
Mario. Il y a deux choses. D'abord, l'Euro en 2016, la finale France contre Portugal, qui avait été gagnée par le Portugal, ça avait attiré quand même 2,5 millions de Canadiens sur les réseaux canadiens. C'est pour te dire, là, tu sais. C'est quand même un bon chiffre pour un pays qui ne participe même pas à ça, puis c'est à l'autre bout de l'océan Atlantique. L'autre chose, c'est qu'en 2016, cette même finale-là avait attiré, à travers les pays d'Europe, là, plus de 110 millions de téléspectateurs. Fait que là, on est rendu dans des chiffres comme le Super Bowl. C'est quand même impressionnant comment le monde entier se rallie derrière ces événements-là, parce que il y a cet aspect patriotique de pays en pays. C'est pas Barcelone contre Manchester United. J'enlève rien à ça, là. C'est pas la finale de la Champions League. C'est la finale de nation contre nation. Et c'est là que les joueurs quittent leur club et se retrouvent dans leur pays pour représenter patriotiquement leur couleur. On n'a pas vraiment ce feeling-là, Mario, en Amérique du Nord. On l'a au Canada pour les Jeux olympiques quand les joueurs de la Ligue nationale participent. On l'a au championnat du monde de hockey junior, par exemple. C'est vrai. Mais c'est pas aussi intense que ce que ça représente pour l'Europe lorsque l'Euro, ou pour le monde entier lorsque tu as la Coupe du monde. Ça, c'est quelque chose qui est un peu méconnu du côté canadien et américain de jouer pour son pays. Parce qu'ils ne jouent pas pour leur pays dans la NFL. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Quand la NBA joue pour leur pays, USA Basketball, ça donne des résultats avec des matchs par 40 points d'avance. Alors, il n'y a pas cette espèce d'équilibre-là comme il y en a au football mondial.
Oui, et les droits de télédiffusion, peut-être en complément d'information, on sait à quel point le Super Bowl, c'est une propriété importante pour un diffuseur américain. Alors, j'imagine qu'en Europe, il doit y avoir une papier guéguerre pour mettre la main sur les droits d'événements semblables.
Hein? Oui, mais c'est pareil comme les Jeux olympiques, c'est pareil comme la Coupe du monde, c'est-à-dire tu y vas pays par pays. Comme au Canada, c'est Bell Media pour le côté anglophone, TVA Sport pour le côté francophone. Et donc, en Angleterre, c'est Sky Sports qui distribue. Dans chaque pays, tu as des ententes qui se font au niveau commercial pour acheter ces droits-là, pour se les approprier. C'est là que l'argent rentre pour la UEFA. Alors, tu sais, c'est une grosse business, le soccer mondial, tu le sais. C'est comme les Jeux olympiques. NBC paye une fortune de son budget sport marketing pour les droits des Jeux. Puis après ça, ça se fait comme une forme de revente à travers le monde entier. Puis les droits que les autres pays payent sont minuscules par rapport à ce que NBC paye, parce que c'est là, justement, qu'on revient sur l'aspect diffuseur, téléspectateur, audience et publicité commerciale qui va avec ça. Alors, c'est un gros marché. C'est des milliards de dollars qui sont en jeu à chaque occasion parce que ça mobilise la planète au complet. Même quand tu n'es pas en Europe, tu regardes ce qui se passe en Europe.
Ben oui, puis c'est agréable de voir des matchs souvent très, très enlevants là, du matin au soir, surtout dans les premières phases. Un pays préféré en quelques secondes, Ray?
Ben, la France, bien sûr, parce que tu sais, j'ai une affinité avec la France pour avoir vécu là-bas longtemps. Puis le choc France-Allemagne, Mario, le groupe G, c'est France-Allemagne-Portugal dans le même groupe.
Aïe,
la pauvre Hongrie qui les accompagne sont un peu seuls sur le...
À moins qu'ils répètent les exploits de l'Islande lors d'une dernière édition de l'Euro, sait-on jamais, mais non, c'est pas une prédiction, Ray, c'était juste plus une boutade que d'autres choses. Un gros merci pour ton intervention, puis bonne présence à RDS ce soir, mon ami.
Salut Mario, merci à toi, bye.
À bientôt. Voilà, Ray Lalonde sur l'Euro 2021. Quelques messages et nous accueillons avec un immense plaisir tout à l'heure une des meilleures têtes de hockey qu'on a ici au Québec, Daniel Sauvageau, et qui doit être animé d'une grande fierté aujourd'hui avec l'inauguration du centre de perfectionnement consacré à l'élite du hockey féminin. Daniel, avec nous au retour.